Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant quelle est notre vocation céleste. Nous arrivons à l'étude numéro 14 et c'est la quatrième partie. Et quatorzièmement, puisque nous avons 16 points, quatorzièmement, le titre pourrait être « La gloire de Dieu » qui se trouve dans la résurrection. J'aimerais vous demander de lire chez vous tranquillement le chapitre 11 de Saint Jean. Le chapitre 11 de Saint Jean. Nous commençons par un verset qui se trouve dans Ézéchiel, chapitre 37, versets 12 et 13. Il est dit, « Eh bien, prophétise et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je vais ouvrir vos tombeaux, je vous ferai remonter hors de vos tombeaux, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Vous saurez que je suis l'Éternel quand j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai remonter hors de vos tombeaux, ô mon peuple. » Ézéchiel 37, versets 12 et 13. Et continuons dans Ésaïe, chapitre 11, verset 11. Là, il est dit, « En ce jour-là, le Seigneur étendra encore une fois la main pour racheter le reste de son peuple, oui, tous ceux qui auront échappé à l'Assyrie, à l'Égypte, à Patros, à Cus, à Élam, à Sinéar, à Hamat et aux îles de la mer. » Ésaïe 11, verset 11. Et maintenant, prenez Romains, chapitre 9, versets 27 à 29. Ésaïe, de son côté, s'écrit en parlant d'Israël, « Quand le nombre des enfants d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé, car le Seigneur accomplira pleinement et promptement sa parole sur la terre. » Et comme Ésaïe l'a prédit, si le Seigneur des armées ne nous aurait pas laissé un germe de notre race, eh bien, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorre. Romains chapitre 9, versets 27 à 29. Chers amis, afin de voir le cadre de ce point, il est nécessaire de voir premièrement ce qui est relevé au chapitre 10, Saint Jean chapitre 10, verset 39. Là, il est dit, il cherchait encore à s'emparer de lui, c'est-à-dire de Jésus, mais il s'échappa de leurs mains. Saint Jean, chapitre 10, verset 39. Les Juifs ont pris de nouveau des pierres, des cailloux, pour le lapider. C'était leur désir. Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que, étant homme, tu te fais Dieu. » Saint Jean chapitre 10, versets 31 et 33. Prenons ensuite les versets 7 et 8 du chapitre 11, évidemment de Saint Jean, donc chapitre 11. Après cela, il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Maître, Hier encore, les Juifs ont cherché à te lapider, et tu retournes au milieu d'eux. Nous voyons l'arrière-plan juif. De manière répétée, les Juifs cherchaient toujours à lapider Jésus. Ils désiraient faire pour lui ce qu'ils ont fait plus tard à son merveilleux serviteur Étienne, simplement le lapider et ensuite le laisser là, brisé dans son corps et mort. Ils prirent donc des pierres pour les lui jeter. Saint Jean chapitre 8, verset 39. Oui, en effet, tel est l'arrière-plan du 11e chapitre, et il nous montre très clairement pourquoi l'ancien Israël a été mis de côté et pourquoi Dieu devait avoir un autre Israël. Cet Israël-là ne pouvait jamais servir le dessein de Dieu et il fut donc rejeté. Si nous enlevons la mention de chapitre 11 et si nous continuons sans interruption le chapitre 10, alors nous verrons que ce récit de la mort et de la résurrection de Lazare, que ce récit est présenté directement sur cet arrière-plan-là. Il ne faut donc jamais regarder une histoire comme si c'était seulement un incident en soi-même. Il nous faut toujours reconnaître qu'elle est reliée à autre chose. Et cette mort et cette résurrection de Lazare paraissent directement sur cet arrière-plan juif. Ce n'est pas simplement une coïncidence, ce n'est pas simplement un événement qui arrivait par hasard. Jésus montre très clairement qu'il était dans le dessein de Dieu. Si nous relisons le récit, nous verrons qu'il est tout à fait clair, d'après ce que dit Jésus, que tout avait été arrangé et décidé par Dieu. Dieu avait décidé que Lazare devait mourir et Jésus ne veut pas intervenir en cela. Sa mort devait donc arriver parce qu'elle était liée à une grande œuvre que Dieu accomplirait. Regardons donc Lazare. Lazare est malade. Mais il est malade d'une maladie pour laquelle il n'y a pas du tout de guérison. Nous ne savons pas combien de docteurs il y avait à Béthanie ou à Jérusalem qui n'étaient éloignés que de quelques petits kilomètres, mais nous pouvons être certains qu'il se trouvait des docteurs dans la contrée et que les sœurs avaient pu en appeler au moins un durant ces 4 jours. Mais qu'il l'ait fait ou non, eh bien voyez-vous, les docteurs avait été totalement impuissant. Lazare devait donc mourir selon le plan de Dieu. Il était atteint d'une maladie pour laquelle il n'y avait pas du tout de guérison possible. Et Jésus lui-même, qui avait ressuscité à plus d'une reprise les morts, n'interviendra pas. Pas dans ce cas-là. Jésus refuse positivement d'empêcher la mort en ce qui concerne Lazare. Il nous est simplement dit que lorsque Jésus entendit parler de la maladie de Lazare, il resta où il se trouvait, et cela pendant 4 jours. Et ce fait a naturellement causé le grand problème des sœurs, et cela a donné une base aux ennemis qui disaient, selon Saint Jean chapitre 11 verset 37, « Lui, Jésus, qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût pas ?» Oui, les sœurs peuvent ne pas comprendre. Et les ennemis, alors ils ont de quoi de pouvoir juger. Jésus ne sera ébranlé par rien, de sorte qu'il laisse Lazare mourir. Est-ce une situation désespérée? Que dira donc Jésus à cet égard? Lorsqu'il reçut le message des sœurs, il répondit, « Oh, cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, et cela afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Verset 4. Cette maladie n'est pas à la mort, et cependant, il permet que Lazare meure. Il veut dire évidemment, cette maladie n'est pas à la mort pour l'éternité. Ce n'est pas une mort absolument finale. Et il dira plus tard, Lazare est mort. Et cependant, il dit, cette maladie n'est pas à la mort. Il voulait donc faire comprendre, la mort ne sera pas le dernier mot. Maintenant, reconnaissons ceci. À mesure que nous avançons, la connaissance spirituelle de Jésus, bien qu'il ait été très éloigné de Béthanie, Jésus sut exactement le moment où Lazare mourut. Et personne ne lui envoya un second message pour lui apprendre que Lazare était mort. Et il dit à ses disciples, « Lazare, notre ami, s'est endormi. » Verset 11. Et les disciples répondirent, « S'il dort, il sera guéri. » Jésus leur dit alors ouvertement, « Mais Lazare est mort. » Verset 12 et 14. Jésus connaissait donc dans son esprit que Lazare était vraiment mort, et il connaissait toujours dans son esprit où se trouvait la mort et où il y avait la vie. Alors, si le Seigneur Jésus est en nous par son Esprit Saint, alors nous savons toujours si les choses sont vivantes ou si elles sont mortes. Nous pouvons donc nous trouver parmi certaines personnes et nous pouvons dire, « Oh, il n'y a point de vie ici. Il semble que tout est mort. » Ou nous pouvons être au milieu d'autres personnes. Et là, nous pouvons dire, « Oui, oui, il y a ici la vie. » Nous le savons dans notre esprit. Et personne n'a besoin de nous dire si certaines personnes sont mortes ou vivantes. C'est là une marque du Seigneur Jésus. Jésus connaissait donc le moment où Lazare mourut. Nous avons ainsi l'arrière-plan juif, le sens immédiat de cet incident, c'est-à-dire son lien avec l'ancien Israël. Et c'est pourquoi nous avons lu ces passages d'Ézéchiel et d'Ésaïe. Lorsque Israël était en captivité à Babylone et en Assyrie, eh bien le Seigneur dit que ce peuple était mort et enterré, et il ajouta, j'ouvrirai vos tombeaux. Pour le Seigneur, les Israélites étaient dans leur tombeau. Ésaïe dit ensuite qu'un reste reviendrait, et ce reste, c'était le peuple qui sortit du tombeau de l'Assyrie et de Babylone. Avons-nous remarqué que dans les Romains, l'apôtre Paul reprend cette pensée pour la reporter dans le Nouveau Testament. Il cite les paroles d'Ésaïe en ce qui concerne un reste et il dit que de l'ancien Israël enseveli sortira un reste qui sera ressuscité par le Seigneur et ce reste sera incorporé dans le nouvel Israël céleste. Et c'est la raison pour laquelle cette histoire de Lazare, elle se trouve directement dans le cadre juif. Du reste, nous remarquons que délibérément, Jésus revient dans cette contrée hostile des Juifs. C'est là que, à plusieurs reprises, ils avaient voulu le lapider, mais il dit à ses disciples, « Retournons en Judée, verset 7. » Et les disciples lui répondirent, « Mais Seigneur, tout récemment encore, ils ont tout de même essayé de te lapider, là. Pourquoi vouloir y retourner ?» Mais il ne veut pas accepter leur argument, il retourne délibérément dans la contrée hostile qui lui était si, on peut dire, si durement opposée. Pourquoi fait-il cela? Pourquoi? L'histoire de Lazare, c'est elle qui est la réponse. La mort et la résurrection de Lazare sont là. Ils sont là en contraste avec cette situation. C'est précisément au sein du vieil Israël rejeté, mort et enterré, qu'il va ressusciter un nouvel Israël. L'on aurait pu penser que, alors que le Seigneur désirait commencer son œuvre nouvelle, il se serait dirigé dans un autre pays. Il aurait pu dire, « Je ne peux rien faire, ni à Jérusalem, ni en Palestine. Allons donc en Inde ou en Chine, pourquoi pas, et recommençons tout à nouveau. » Mais, voilà, il retourna délibérément en Judée et il dit, « Dans ce lieu de mort, j'établirai la résurrection. » Dans ce lieu de mort, j'établirai la résurrection. Le jour de la Pentecôte est merveilleux pour ce fait seul. S'il y a eu un jour une situation impossible, eh bien ce fut bel et bien à Jérusalem en ce jour-là. L'ancien Israël avait été rejeté par Dieu et était mort à ses yeux. Il était donc enseveli et ce fut là que Dieu fit paraître par la nouvelle naissance, sa nouvelle Jérusalem. C'est le cadre et la signification immédiate de cet incident. Mais nous avons dit que l'apôtre Paul reporte tout cela dans le Nouveau Testament et qu'il dit « Dieu a mis de côté l'ancien Israël, mais il va lever de ce lieu de mort son nouvel Israël. Un reste sera donc sauvé par son union avec Jésus-Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Qu'est-ce que le nouvel Israël? Oui, qu'est-ce que c'est ce nouvel Israël? Ce qui caractérise les chapitres 9e, 10e et 11e de la lettre aux Romains parle d'un côté de la mort de l'ancien Israël, de la nation rejetée. Et l'apôtre dit ensuite que de cet Israël-là sortira un reste. Mais nous voyons le chapitre 11e entrer directement dans le 12e chapitre. Et de quoi le 12e chapitre nous parle-t-il? Il nous parle du corps de Christ. Et qu'est-ce que ce corps? Il n'est pas composé de juifs et de grecs rassemblés, mais tous les deux, après avoir perdu leur propre distinction, ils sont devenus un en Jésus-Christ. Dans un autre passage, l'apôtre Paul dit « Il n'y a plus ici ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Galates chapitre 3, verset 28. Ainsi, lorsque l'ancien Israël est mis de côté et qu'un reste en a été tiré, on peut dire enseveli avec Christ, et en plus ressuscité avec lui, il ne ressort pas comme un reste juif, mais comme une part du corps de Christ. Ça veut dire c'est le nouvel Israël. Nous avons dit que nous trouvions là le lieu immédiat. Ce qui nous aidera le plus, cependant, ce sera de voir le lien plus vaste. Nous revenons donc à Lazare. Le Nouveau Testament nous enseigne ceci. La croix du Seigneur Jésus, cette croix ne guérit pas automatiquement le vieil homme. Elle le crucifie tout d'abord. C'est la difficulté pour la plupart d'entre nous. Soyons parfaitement honnêtes à cet égard. Nous désirons que le Seigneur vienne pour guérir notre vieil homme, qu'il fasse de lui un vieil homme bon et qu'il lui enlève toutes ses fautes automatiquement, tout ce qui est mal en lui et toute sa nature pécheresse. La croix du Seigneur Jésus ne fera pas cela. Non. Elle dit, aux yeux de Dieu, le vieil homme est mort, d'accord. Il est donc enterré. Notre vieil homme, nous dit l'apôtre Paul, a été crucifié avec lui, avec Jésus. Romains chapitre 6, verset 6. Jésus n'est pas venu, on peut dire, à aucun vieil homme pour simplement guérir le vieil homme et le rendre un peu meilleur. Et cependant, durant toute notre vie, Nous désirons que le Seigneur nous rende un peu meilleurs. Jusqu'à la fin de notre vie, le vieil homme restera toujours le vieil homme. Mais avec cette différence, Dieu le considère comme enseveli, comme dans le tombeau, c'est-à-dire comme crucifié avec Christ. Donc, en Christ Jésus ressuscité, il y a là maintenant une nouvelle création. Alléluia. C'est Lazare. Et Jésus n'a pas voulu guérir Lazare de sa maladie. Et Dieu ne voulut pas guérir Israël de sa mauvaise nature. Il dit, il doit mourir. Ce n'est que la moitié de l'histoire. Mais soyons tout à fait au clair à cet égard. Il y a toujours un arrière-plan incurable dans notre vie, dans ma vie, et il ne sera pas guéri. Il est là toujours et ne sera pas guéri de ses maladies spirituelles. Et à tout moment, si nous voulons retourner sur la base du vieil homme, nous commettrons les mêmes péchés. J'ai connu cela pendant des dizaines d'années. C'est là, d'un côté, ce que nous enseigne le Nouveau Testament. Mais la gloire, elle sera dans ce qui est opposé à cet arrière-plan. Elle sera dans ce qui se trouve au-dessus de cet arrière-plan. Nous pouvons avoir un corps malade, car le Seigneur ne guérit pas toujours tous les corps malades. Il le fait quelquefois, mais pas toujours. Même chez les meilleurs des saints qu'il ait eu, j'ai connu quelques saints hommes qui étaient des exemples pour moi. J'aurais dû les suivre bien plus tôt. Ça aurait été mieux. Eh bien, parmi eux, il y en avait qui avaient des gros problèmes de santé. Mais attention, ils étaient illuminés de quelque chose de merveilleux à un tel point qu'ils étaient une bénédiction à de nombreuses personnes qui croyaient qu'ils étaient bien sauvés, qui croyaient. Et ils ont pu être totalement récupérés, renouvelés et nés de nouveau totalement. Nous pouvons avoir une nature humaine malade, c'est vrai. Et nous savons tous que cela est vrai. Nous rencontrons sans cesse quelque chose qui nous trouble chez les uns et les autres. Aussi seulement je pouvais oublier ce que ce frère ou cette sœur est en lui-même ou en elle-même, ce que cette sœur. Eh bien, je serais heureux de savoir. Mais vous le savez, il y a, ou elle a, malheureusement, un terrible caractère. Et ce caractère ne peut pas être changé, hocus pocus, simplement avec une baguette magique. Nous avons parfois un caractère pas tout à fait commode durant toute notre vie jusqu'au bout. Ça arrive, mais le Seigneur nous aime et nous pouvons lui appartenir même avec un sale caractère. il ou elle aime le Seigneur et désire ce que le Seigneur peut approuver. Mais lorsque nous les rencontrons naturellement, nous ne trouvons ni en lui, ni en elle, une personne très facile à vivre. Il y a des caractériels, etc. La grâce, elle voit les différences, mais elle les surpasse. Elle ne les arrache pas automatiquement. Comme il en était pour l'apôtre Paul, nous dirons tous, à la fin de notre course, non pas que je sois déjà parvenu à la perfection, Philippiens chapitre 3, verset 12. Peut-être à la fin de nos jours, avant que nous allons auprès du Seigneur, ceux qui nous entourent trouveront-ils encore en nous quelques difficultés? Nous ne serons jamais parfaits, moi le premier. Nous ne disons pas que nous ne devions pas perdre ces fortes et mauvaises traces de caractère dans notre vie. La grâce accomplira des miracles dans notre nature humaine, mais si nous attendons trop dans cette vie, un jour où nous serons entièrement libérés de cette nature, nous serons un peu désappointés. Peut-être dirons-nous, c'est un pauvre évangile à prêcher. Mais il y a un autre côté à tout cela. Vous et moi, oui, vous qui m'écoutez et moi, nous pouvons vivre dans la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus avec un corps pas très performant, voire malade, et avec une nature très pauvre. Oui, la puissance de sa résurrection peut triompher de tant de choses. Au-dessus de tout cet arrière-plan naturel, peut se trouver la puissance de sa résurrection. Il nous faut dire au sujet de certains croyants, oui, vous savez, il est si faible physiquement. Il sait ce que est la maladie. Mais regardez ce que le Seigneur lui permet d'accomplir. C'est un miracle de voir comment son travail peut être fait. Il devrait être déjà longtemps mort, mais il continue. Cependant, ce n'est pas dans sa propre force. Il y a une autre force qui triomphe de sa faiblesse. L'apôtre Paul a dit, « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Je répète, parce que c'est important. Voyez-vous, au-dessus de tout cet arrière-plan naturel, peut se trouver la puissance de sa résurrection, de la résurrection de Jésus. Il nous faut dire, au sujet de certains croyants, oui, vous savez, il ou elle est si faible physiquement. C'était mon cas très souvent. J'étais plusieurs fois entre la vie et la mort. Il sait, et je sais, ce que est la maladie. Mais regardez ce que le Seigneur me permet d'accomplir à 89 ans. C'est un véritable miracle de voir comment mon travail peut être fait. Je devrais être mort depuis très longtemps, mais je continue. Oh, rassurez-vous, je ne veux pas vous mentir. Je ne vais pas pouvoir être accepté l'année prochaine pour les Jeux Olympiques. Et je ne vais pas pouvoir grimper au Jungfrau, à la montagne de Jungfrau, ou une autre. Cependant, voyez-vous, ce n'est pas dans ma propre force. Il y a une autre force qui triomphe donc de ma faiblesse qui n'est pas très plaisante. Et l'apôtre Paul a dit, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il faut dire cela assez rapidement parce que je suis vraiment pas très fort du tout. Notez 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10. Donc la puissance de la résurrection, chers amis, de la résurrection de Christ, elle a triomphé de la faiblesse de l'apôtre Paul. Il dit du reste, « Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la force de Christ habite en moi. » 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Il parle donc de ses infirmités physiques et de la puissance de la résurrection de Christ. Ce qui est vrai dans le domaine physique est vrai également dans le domaine spirituel, bien entendu. Si nous vivons en nous-mêmes, nous lâcherons. Oh, combien d'infirmités il y a dans notre nature. Nous portons toujours en nous-mêmes beaucoup de faiblesses spirituelles, et j'en sais quelque chose. Comprenons-nous, chers amis, de quoi nous parlons? Que de troubles nous causent nos infirmités naturelles. S'il nous arrive de dire « Je ne peux pas » et si parce que nous ne pouvons pas, nous disons « Eh bien, j'abandonne. Oh non, je vais démissionner de mon poste de pasteur parce que je me trouve loin d'être ce qu'il faudrait être. J'ai peur de contaminer les autres. » Ah non, c'est pas la bonne solution, ça. C'est un peu lâche. N'abandonnez pas. Dire « j'abandonne », nous perdrons la plus grande bénédiction de la vie chrétienne. Pensons à tout ce que l'apôtre Paul a dû accomplir et qu'il a dû supporter. Ce fut une vie terrible que la sienne, à un certain point de vue en tout cas. Il avait une infirmité dans son corps. Il rencontrait des ennemis partout où il allait et il supporta de nombreuses adversités. Il fut dans la mer un jour et même une nuit entière. Il fut dans la nudité, j'ai bien dit, et dans la famine. C'est loin d'être très plaisant. Il dut faire à pied des kilomètres après kilomètres. Il n'y avait pas de l'autostop. Il a dû voyager des mois entiers. Nous pouvons aussi reprendre toutes les difficultés de cette vie. Et si jamais un homme aurait pu s'écrier « Je ne peux plus continuer », eh bien, c'est bel et bien l'apôtre Paul. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Philippiens chapitre 4, verset 13. Il n'était pas prêt à monter sur un podium pour faire de l'haltérophilie et de lever 200 kilos. Non, non, non. Il n'était pas non plus ceinture d'or de judo. Il a dit, je peux faire toutes choses malgré ma faiblesse. L'apôtre Paul aurait dit, moi, je ne peux rien par moi-même, mais je peux tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Moi non plus, je ne peux rien par moi-même. Surtout avec le peu de bagages que j'ai eu dans ma vie. Je pourrais même pas faire ce que je fais maintenant. Il y a eu un jour où, naturellement, il a désespéré de la vie. Il a dit, nous avions prononcé en nous-mêmes notre arrêt de mort, ne voulant pas mettre notre confiance en nous, mais en Dieu qui ressuscite les morts. 2 Corinthiens 1, chapitre 9. Revenons un peu à notre ami Lazare. Lazare, il était absolument sans espoir et évidemment sans aucune puissance. Il ne pouvait absolument rien faire. Et c'est ce que nous sommes naturellement, certains d'entre vous, en tout cas moi. Mais Jésus dit que c'était pour la gloire de Dieu. Mes chers amis, la gloire de Dieu est manifestée en ceux qui en eux-mêmes sont réellement morts, mais qu'ils rendent capables de marcher et d'accomplir de grandes choses pour lui. Il y en a, comme le pasteur Daniel Guillaume Gentil et sa femme, comme une amie qui s'appelle, enfin, je ne sais pas son nom, c'est un sobriquet probablement, Sœur May et son mari. Et il y en a beaucoup d'autres. Jésus peut ne pas toujours guérir notre corps ou notre propre nature, mais il peut nous donner sa vie divine, et cela est immense. Peut-être avons-nous entendu parler du grand serviteur de Dieu, le docteur A.B. Simpson. Il croyait profondément en la guérison divine, et il a même écrit un livre intéressant sur ce sujet. Mais malgré sa foi, il dit ceci, afin que vous ne vous mépreniez pas sur ma position, je ne dis pas que chacun doive être ou peut être guéri, mais je dis que chacun peut connaître la vie divine qui est infiniment beaucoup plus grand que la vie naturelle. Je répète, Jésus peut ne pas toujours guérir notre corps. Il l'a guéri des dizaines de fois dans mon cas. Maintenant, évidemment, à 89 ans, avec le canal Lambert coincé, ça fait très mal, très mal. Mais parce que le squelette a raccourci, avec autant d'âge, évidemment, c'est pas la faute de Dieu, en tout cas pas. Donc, forcément, je ne peux pas marcher plus de 50 mètres d'un coup et je dois m'asseoir une minute, puis après je peux reprendre. C'est donc un peu laborieux, hein? D'accord, je serre les dents, comme on dit. Mais, parfois aussi, il ne corrige pas tout dans notre propre nature. Ni en ma chère sœur, pasteur, d'église protestante. Mais ça viendra. Ne désespérons pas. Mais il peut surtout donner, et y compris à ma très chère sœur pasteur, il peut donner sa vie divine. Je vous demande, est-ce que cela n'est pas immense? Ou est-ce que vous pensez que c'est rien du tout? Peut-être avons-nous entendu parler du grand serviteur de Dieu, je l'ai dit, docteur A.B. Simpson. Évidemment, ça ne vient pas d'hier. Eh bien, lui et beaucoup d'autres croyaient profondément en la guérison divine. Il a même écrit un livre sur ce sujet très intéressant, mais malgré sa foi, il a dit ceci. « Afin que vous ne vous mépreniez pas sur ma position, je ne dis pas que chacun et chacune doivent être ou peut être guéri, mais je dis que chacun et chacune peut connaître la vie divine qui est infiniment plus grand que la vie naturelle. Je crois que c'est loin d'être faux. Et j'espère que vous dites avec moi, c'est merveilleux. J'ai connu une sœur qui était malade à mourir, mais le rayonnement qu'elle avait contaminait des durs à cuire ou des durs à cuire. Et donc, voyez, il y avait la lumière divine qui jaillissait en elle malgré les grandes douleurs. Mais revenons un peu à Lazare. Le Seigneur ne l'a pas guéri, mais il lui a donné la vie de résurrection. Et c'est là notre espérance à vous et à moi. Le Seigneur peut vouloir guérir notre corps ou il peut ne pas le désirer. Il ne veut pas que nous vivions de notre propre vie, mais il désire que nous vivions de sa vie de résurrection. C'est ce que Jésus a déclaré lorsqu'il a dit « Cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est à la gloire de Dieu. » Saint Jean chapitre 11, verset 4. Si nous sondons notre nouveau testament, alors nous verrons que Dieu est toujours glorifié dans la résurrection. C'est là que se trouve la gloire de Dieu. Nous pouvons voir un chrétien très faible au point de vue physique, mais nous pouvons glorifier Dieu en ce frère, en cette sœur, à cause de la puissance merveilleuse de la vie divine. Nous pouvons voir une personne qui a beaucoup de fautes et beaucoup de choses en elle que nous n'aimons pas forcément, et cependant, il y a quelque chose de beaucoup plus que cela. Il y a la vie du Seigneur en elle. Tandis que nous ne pouvons nous réjouir en ce qu'elle est naturellement, nous pouvons glorifier Dieu, par contre, pour ce qu'elle est spirituellement. C'est le cœur réel de l'incident de Lazare. La vie qui sort de la mort, ça c'est le secret de Dieu, c'est la chose qui le glorifie beaucoup plus que toute autre chose. Tout cela, n'est-ce pas une belle histoire et une vérité merveilleuse? Mettons-le à l'épreuve demain matin. Et disons au Seigneur, lorsque nous nous lèverons, Seigneur, Seigneur, je ne vaux rien en moi-même, je le reconnais. Mais je veux vivre aujourd'hui par la puissance de ta résurrection. Il peut y avoir en vous-même, en nous-mêmes, ou en dehors de vous-même, des situations impossibles. Mais disons simplement au Seigneur, maintenant Seigneur, maintenant, que tu sois glorifié aujourd'hui en me rendant capable de vivre dans ta vie de résurrection. Même si je dois prendre une canne pour marcher. D'accord? Ça, c'est une position qu'il nous faut prendre par la foi chaque jour. Timothée était évidemment un jeune homme physiquement, paraît-il, faible. Il avait quelques troubles de l'estomac et cela l'ennuyait constamment. L'apôtre Paul lui dit, « Saisis-toi de la vie éternelle. » 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Et il a parlé de ses fréquentes indispositions. 1 Timothée 5, verset 23. « Si le Seigneur voulait que tous les malades soient guéris physiquement, alors, je vous le demande, pourquoi l'apôtre Paul n'a-t-il pas guéri Timothée? En terminant cette étude 2, je dois vous dire que l'apôtre Paul savait très bien qu'il y a quelque chose de meilleur que simplement la guérison physique. La puissance de la vie éternelle dans un faible corps physique est un très grand témoignage. Chers amis, saisis-toi surtout de la vie éternelle. Faire des sauts périlleux et des saltos pour aller tout droit en enfer, ça vaut pas la peine. Même si tu boites un peu, il vaut mieux que tu aies la vie éternelle. C'est pas défendu de prier pour les malades, au contraire, c'est notre devoir. Mais il ne faut pas croire que tous les malades vont pouvoir faire des sauts périlleux. Mais c'est la vie de résurrection qui compte. Et c'est quelque chose que nous devons faire, nous tous, et désirer. Chers amis, nous allons maintenant terminer par la prière. Prions. Chers amis, cette prière que le Seigneur m'a donnée pour vous, elle est pour tous ceux qui ont maintenant écouté cette étude. Pour tout un chacun qui a écouté. Alors prions. Dieu miséricordieux, j'ai tellement de peine à m'accepter moi-même. Tant de choses me dérangent dans ma personne, dans mon impatience, dans mon agitation, dans ma susceptibilité. Je te présente tout ce qui est en moi qui m'irrite. Je sais que tu m'acceptes sans condition. tu ne me juges pas, ni ne me condamnes. C'est moi-même qui me comporte de façon aussi impitoyable vis-à-vis de moi. Je te rends et je te tends mon impuissance à m'accepter, et je suis sûr que ton acceptation est plus forte que mon incapacité à m'accepter. Je te tends mes mains vides. Je renonce à m'évaluer moi-même. Je sais que tu combleras mon vide avec ton amour. Même lorsque je sais que tu m'acceptes, j'éprouve parfois de la difficulté à croire et je te demande pardon. Souvent aussi, j'aimerais te cacher les côtés que je ne veux pas regarder moi-même. Mais maintenant, je veux prendre le risque. Regarde mes mains par lesquelles je te tends ma vérité. Regarde dans mon cœur. Je ne veux pas le fermer devant toi. Je te laisse regarder tous les abîmes de mon âme, afin que ton regard d'amour transforme tout en moi. Quand ton amour pénètre en moi, je puis moi-même, moi aussi, regarder en moi avec un regard de bienveillance, car ton œil bon repose sur tout ce qui est en moi. Et cela me donne le courage de me comporter avec davantage de bonté vis-à-vis de moi-même et de mes semblables, et de m'aimer tel que je suis devenu. Et cela afin d'avoir confiance en ton amour qui est inconditionnel. Amen. Amen. Et chers amis, sachez que le Seigneur vous aime. Il vous aime au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Je vous aime également de tout mon cœur. Oui, c'est vrai. Et je prie pour beaucoup d'entre vous, en tout cas pour ceux que le Seigneur me met dans le cœur et que je connais, mais je ne connais pas tout le monde, évidemment. Mais le Seigneur vous connaît. Et il vous aide. Il vous aime. N'oubliez jamais cela. Même si vous vous trouvez comme je l'étais pendant des années, très insatisfaisant de vous-même, il vous aime. Alléluia. À demain matin, Dieu voulant, parce qu'évidemment, à mon grand âge, tout peut arriver. Il peut me reprendre aujourd'hui même. Si il m'autorise, alors à demain matin pour la suite. À bientôt, chers amis. Au revoir.